Ah 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 bon ah tiens arrobase abaca bacule ça commence comme ça et ça ne finit jamais ou presque à la queuleule des mots à la page vieux style plein de pages allons bon de a à z.
Pascal Paradou.
2838 pages et quelques kilos, voici le nouveau-né de chez Robert. Le bébé se porte bien avec plein de nouveautés et la maman semble au top. Et si j'utilise là un anglicisme, c'est parce qu'il est validé par le Petit Robert, le dictionnaire de la langue française qui fait référence depuis le début des années 50. Bonjour Géraldine Moinard.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous êtes la directrice de la rédaction des éditions Le Robert, donc c'est un peu votre bébé.
Oui, enfin, c'était le bébé des équipes du Robert, c'est pas seulement le mien.
Des équipes nombreuses? Pas tant que ça?
Oh, des équipes nombreuses avec tout un tas de métiers qui s'occupent de la conception de l'ouvrage du début à la fin.
Alors, une nouvelle édition tous les ans d'un dictionnaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Oui, c'est nécessaire parce que la langue évolue rapidement, la langue est très riche, la langue est vivante et donc il y a des nouveaux mots qui apparaissent, des nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions en permanence. Toutes ne rentrent pas dans le dictionnaire parce que toutes n'ont pas vocation à durer, mais c'est important pour nous d'actualiser les dictionnaires pour suivre ces évolutions et pour permettre aux gens de comprendre les mots qui les entourent. Les versions numériques permettent également une actualisation des dictionnaires plus fréquente.
Il y a à peu près combien 150 mots tous les ans?
Environ 150 à 200 mots, sens et expressions nouvelles, nouveaux.
Et il y en a autant qui disparaissent ou c'est surtout du plus?
Alors c'est surtout du plus, puisque évidemment les mots vivent. On ne retire pas les mots de nos dictionnaires autant que possible parce que les mots, même s'ils vieillissent, certains vieillissent, ont toujours besoin d'être compris. Ils sont présents dans des textes, donc on a besoin de les chercher. Simplement leur définition va évoluer. On va avoir ce qu'on appelle nous des marques qui vont indiquer qu'un mot par exemple est vieilli ou ne s'emploie plus beaucoup. Mais on les garde, on a besoin de continuer à savoir ce qu'ils veulent dire.
D'une édition à l'autre, Géraldine Moinard, est-ce que vous reprenez toutes les définitions des quelques 100 000 mots du dictionnaire ou vous ne vous occupez que des ajouts?
Alors, toutes, non. Ce serait impossible.
Vous n'auriez pas cru.
Non, vous ne m'auriez pas cru. On ne s'occupe pas que des ajouts. Il y a beaucoup de modifications qui sont faites au sein même des articles. D'abord parce qu'il y a des évolutions de sens. Là, par exemple, cette année, nous accueillons la bio dans les réseaux sociaux. Le petit texte qui décrit un compte sur un réseau social. Évidemment, on avait déjà bio en tant qu'abréviation de biographie, bio en tant qu'abréviation de biologique. Donc, on intègre les nouveaux sens, on modifie les définitions si les sens ont légèrement changé, on intègre des marques si un mot vieillit, si un mot familier passe dans l'usage plus courant. Enfin, il y a beaucoup de modifications qui sont faites si une graphie évolue.
Donc c'est un boulot titanesque quand même.
C'est un boulot de tous les jours.
Et c'est la première édition totalement sans Alain Rey, qui fut le saint patron du Robert et celui qui savait tout, mais tous des mots et de leur évolution.
Aucun mot n'est décevant. Dès qu'on prend un mot, qu'on l'ouvre, qu'on regarde ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit qu'il y a toute une histoire qui raconte quelque chose, que cette chose est en rapport avec l'histoire tout court et qu'elle représente, par exemple, la manière de penser de quelqu'un sous Louis XIV. Quand on me dit « je fais de l'histoire, je m'occupe du XVIIe siècle », je dis « le premier bouquin qu'il faut lire, c'est le dictionnaire d'Antoine Furetière, publié en 1690, dans lequel on voit ce qu'il y avait dans la tête d'un Français cultivé, parisien, bourgeois, à la fin du XVIIe siècle. »
Géraldine Moinard, si l'on en croit Alain Rey, si on regarde et si l'on a cette édition 2023 du Petit Robert, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans la tête d'un Français cultivé, parisien, bourgeois au XXIe siècle?
Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. C'est très drôle d'avoir repris cette citation d'Alain Rey qui parle du dictionnaire de Furtière, parce que sur notre version en ligne gratuite du Robert, qui s'appelle Dico en ligne, on a également intégré les définitions du dictionnaire de Furtière et on les a mises en regard de nos définitions actuelles. Et donc on peut voir que la manière de rédiger les mots au temps d'Antoine Furtière était un petit peu différente. Très différente même, de la manière dont on rédige aujourd'hui. On essaye d'être le plus neutre possible dans la manière de décrire le monde, dans la manière de décrire les choses. Quand on regarde le dictionnaire de Furtière, il y a énormément de références au christianisme. Il y a énormément, on voit la place des femmes également. Il y a beaucoup de choses c'est très rigolo. On voit l'état des technologies. Si vous regardez la définition de virus dans le dictionnaire de Furtière, plus c'est le pus d'une plaie corrosif. Enfin, c'est quelque chose de très drôle. Aujourd'hui, on essaie d'être neutre. Je pense que ce qu'on voit dans le dictionnaire d'aujourd'hui, c'est les mots de l'époque. C'est les mots qui représentent nos préoccupations. Les mots, on le voit avec les ajouts tous les ans, les mots de l'écologie, les mots des nouvelles technologies, les mots de la société, les mots du genre. Il y a énormément de mots qui nous abreuvent et qui reflètent évidemment nos préoccupations.
Et pas forcément bourgeois, parce qu'il y a des mots de l'argot et il y a des mots très familiers qui sont dans le Petit Robert.
Toujours eu dans le Petit Robert, et c'était même son principe de rédaction à la base, d'intégrer des mots familiers, des mots de vulgaires, des mots de tous les horizons, des mots de la francophonie, pour vraiment représenter la langue telle qu'elle est. Le dictionnaire, je reviens sur la notion de parisien, le dictionnaire n'est pas parisien. Évidemment, nos locaux sont à Paris, ça je ne vous cache pas, mais les lexicographes du Robert viennent de différents horizons, de différentes régions. On a aussi des spécialistes de différentes régions de la francophonie, donc ça c'est important également.
Et c'est important de le signaler. Donc cette édition 2023 a 150 à peu près mots nouveaux et expressions liés au Covid, aux nouvelles technologies, NFT, harponnage, à l'écologie, bio, à la francophonie, une go ou le toubab, et puis le fameux Yel, pronom qui a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. De A à Z jusqu'à Zao de Sagazan, toute jeune chanteuse de 22 ans. Zao de Sagazan plutôt, pas d'album, pas de P, mais ce titre, La Déraison, sur RFI pour célébrer un monument de la raison, le Petit Robert, édition 2023 de ce dictionnaire de référence. Géraldine Moinard, vous avez présidé à cette édition et à ma grande surprise, vous avez ajouté le mot « yel » avec cette définition. Pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Quelle était l'urgence de mettre le « iel » dans cette version papier ?
Alors, on ne peut pas parler d'urgence. Simplement, il nous a semblé que ce mot répondait à un certain nombre de nos critères. Le premier critère est la durabilité. On a beaucoup entendu que le mot sortait, était tout neuf, ce qui n'est pas vrai. Le mot existe depuis 2008. C'est dans l'étymologie du Petit Robert que l'on donne dans le Petit Robert. Il était alors en concurrence avec différentes formes. Le mot iel, la forme iel, en concurrence avec d'autres formes, ul, il, a pris le pas. Elle a été utilisée effectivement d'abord dans des milieux militants et puis elle s'est diffusée progressivement. On a constaté qu'elle se diffusait à un ensemble de textes, que la fréquence d'emploi augmentait, en particulier sur les dernières années 2020-2021. On sait qu'il est très utilisé chez les jeunes, qui n'ont d'ailleurs pas été surpris de cet ajout, qu'on le trouve dans des textes administratifs, qu'on le trouve dans des traductions aussi, parce que les pronoms équivalents non-genrés se trouvent, notamment le pronom « they » en anglais américain, le pronom « hen » en suédois. Donc d'autres langues ont également des pronoms similaires qu'on a besoin de traduire. Et ce mot était également très recherché dans nos dictionnaires en ligne, donc on appelait une définition.
Alors il faut quand même raconter la polémique, car polémique il y a ou il y a eu. Quand vous introduisez ce pronom, c'est dans la version numérique, en novembre, et vous vous attirez immédiatement les foudres d'une grande quantité de linguistes, de l'Académie française, mais aussi du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
D'abord, la première chose à dire, c'est que la maîtrise de la langue, c'est le premier des sujets d'un pays. Notre langue est déjà d'ailleurs assez complexe sur le plan écrit, on n'a pas besoin de rajouter des complexités nouvelles. L'idée derrière l'écriture inclusive, lorsqu'il s'agit de féminiser les noms, pourquoi pas? Mais au travers de notions d'écriture inclusive, on rajoute des choses comme le point médian, comme l'invention de nouveaux pronoms.
Autant
de
IEL,
choses, IEL. Oui, des choses qui surgissent de manière inopinée et qui ne se décrètent pas comme ça. Donc si vous voulez, quand un dictionnaire est un dictionnaire de référence, pour nos enfants y compris, on ne peut pas se permettre d'être dans une espèce d'inventivité qui n'a rien à voir avec ce qu'est la langue, tout simplement.
Jean-Michel Blanquer contre le IEL, et je rajoute que Brigitte Macron, la femme du président, a elle aussi condamné cet usage, considérant qu'il n'y a que deux pronoms, le féminin et le masculin. Tous réac ?
Non, je ne sais même pas quoi répondre tellement il y a deux points que j'ai envie d'aborder en réaction à cet extrait. D'abord, vous avez parlé d'un grand nombre de linguistes qui se seraient opposés au IEL. Brigitte Macron n'est pas linguiste, il me semble. Les linguistes nous ont plutôt soutenus dans l'ensemble. L'Académie française, bien sûr, a eu une réaction conservatrice. Ce n'est pas étonnant. L'Académie française, aujourd'hui, est très conservatrice. Elle a mis 30 ans à accepter la féminisation des noms de métiers, alors que toute la presse utilisait des féminins comme auteureux ou autrice, par exemple, et des noms de fonction au féminin. Moi, je trouve scandaleux un petit peu qu'on puisse considérer que la secrétaire perpétuelle de l'Académie puisse dire que le pronom IEL n'a aucun sens, parce que ce sont des gens, c'est les locuteurs qui font la langue, c'est pas le Robert, c'est les locuteurs qui la créent. Nous, on observe ce qui se passe, on enregistre et on donne la définition des mots pour permettre aux gens de les comprendre. On n'a pas d'avis à donner là-dessus, on n'a pas à être pour ou contre, et les linguistes, la plupart des linguistes le savent et ont plutôt été favorables à l'entrée du IEL.
Pas tous quand même, parmi les linguistes les plus connus, il y en a un, c'est Bernard Cerchiglini, qui dirige le Larousse, donc le dictionnaire concurrent, qui a constaté que d'abord ce pronom n'est pas du tout dans l'usage, mais il remarque que c'est plutôt dans la presse militante. Et puis il souligne quand même un problème qui est une question de grammaire.
Ce n'est pas une forme de plus dans la langue. Dans la mesure où les pronoms n'existent pas seuls, on fait des phrases avec eux. Iel est belle ou beau, il faut choisir. Et les gens qui se sentent neutres et qui utilisent iel veulent un neutre et ils ne voudront ni belle ni beau. Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif. Et de proche en proche, on va neutraliser la langue. C'est-à-dire qu'en fait, avec iel, on met en place un système de neutre dans la syntaxe du français qui est aux antipodes de ce que la langue produit depuis 2000 ans. Ce n'est pas neutre du tout, du tout, du tout. Donc, je respecte le ressenti, les problèmes, on a le droit de s'exprimer comme l'on veut, mais on n'a pas le droit de toucher à un système de la langue depuis 2000 ans. Le deuxième problème, c'est « Yel a-t-il un destin dans cette langue ?» Personnellement, j'en doute.
Géraldine Moineur, alors est-ce que Yel a un destin ou de l'avenir?
Déjà, allez dire à tous les jeunes qui l'utilisent qu'il n'y a pas d'usage. On n'a peut-être pas les mêmes sources, et c'est normal avec le Larousse. On a des sources différentes, des corpus de références différents. Mais je pense qu'on a interrogé beaucoup les jeunes lors de la polémique autour de Yel, et la plupart d'entre eux trouvaient que c'était un non-sujet, toute cette polémique. Sur la question...
À l'époque, vous aviez quand même dit que c'était dans la version numérique, que ce ne serait pas dans la version papier. D'où ma surprise de découvrir...
Nous n'avons jamais dit que ce ne serait pas dans la version papier. Nous avons dit, et c'était vrai, que ça n'était pas dans la version papier. Ce qui était vrai à ce jour. Et que nous attendions de voir si nous l'intégrerions ou non à la version numérique. Ce que nous avons fait. Sur la question de l'accord. Bien sûr qu'un nouveau prononcé... Ça pose plus de questions qu'un nouveau mot, qu'un nouveau nom féminin, un nouvel adjectif. C'est plus compliqué à accorder. Mais dans le cas d'IEL, il y a quand même des solutions qui existent. Les gens l'emploient. Comment est-ce qu'ils l'emploient? Si vous, la première façon d'employer IEL, qui est un pronom
non genré
de la troisième personne, un pronom sujet, c'est de l'employer comme vous employez le pronom non genré de la première et de la deuxième personne. Je, tu. Vous l'accordez avec le genre effectif de la personne ou le genre que la personne souhaite utiliser si c'est le cas. Ça ne pose pas particulièrement de problème.
Mais il y a des stratégies différentes.
Pardon ?
Il y a les beaux ou il y a les belles ?
Eh bien ça dépend de votre
sens. Yel a du charme.
Yel, voilà, toute communication inclusive, puisque Yel vraiment s'inscrit quand même dans une forme de communication qu'on veut plus inclusive, les gens qui l'utilisent dans ce sens-là ont le choix. Ils peuvent utiliser le féminin, ils peuvent utiliser le masculin, ils peuvent utiliser simplement des périphrases. La communication inclusive joue beaucoup sur les adjectifs épicènes. À l'oral, c'est 60% des adjectifs qui se prononcent de la même manière au masculin et au féminin. Donc, il y a des solutions. Personne n'est obligé d'utiliser IEL. Nous, ce qu'on veut simplement dire, c'est que si vous l'entendez, et on l'entend, vous pouvez le chercher dans le dictionnaire et trouver une réponse. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Donc, il existe, et la langue évolue, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais, au petit Robert, la question du genre vous a intéressé tout particulièrement pour cette édition, parce que vous introduisez aussi identité de genre et dégenré, dans l'expression par exemple, dégenré les métiers. Dans les grands sujets qui font débat aussi, il y a les mots wok et wokisme. Mais alors là, vous êtes raccord avec le petit Larousse, qui l'ajoute aussi dans son édition. Vous précisez quand même que c'est un usage péjoratif. Wokisme.
Oui, ce qui est le cas. Je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde ne se revendique woke. Le mot wokisme a été beaucoup brandi de manière péjorative. On accusait les gens de wokisme. C'était presque une insulte. Donc oui, on précise évidemment que le mot est péjoratif. On ne peut pas utiliser wokisme comme si ce terme n'avait pas de connotation.
Et ça veut dire se réveiller, être en conscience, et ça vient de...
À l'origine, woke, oui, être woke, c'était être éveillé. Et le sens de woke était plutôt positif. C'était être sensible aux discriminations, aux injustices. Ça, c'était le sens originel qui a été beaucoup dévoyé.
Qui a été beaucoup détourné, en effet. De l'influence des autres langues, il y a aussi la go qui fait son entrée dans le Petit Robert, explication en musique. La go, c'est donc la petite amie, ma go, avec qui on peut faire un ou des bails. Et d'ailleurs, les deux mots font leur entrée dans le petit Robert. Ce sont des mots à la fois étrangers et très familiers, parce que tous les jeunes parlent de ça, de faire un bail ou de faire des bails, et non pas des beaux.
Parce que ça, c'est quand, pas on, les beaux, le
ça c'est quand on devient, voilà, quand on devient propriétaire ou locataire, quand on vit plus chez ses parents. C'est quoi un bail? Des bails.
Alors, un bail, c'est soit quelque chose qu'on ne veut pas nommer, quelque chose d'indéterminé, et plus couramment, c'est un plan, un projet un peu mal défini. On va dire, c'est quoi les bails maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a prévu?
Et ça, c'est validé par le dictionnaire.
Et ça, on l'atteste parce que, comme vous le dites, on l'entend beaucoup. Le mot c'est un mot familier qui est sorti un peu de l'emploi familier chez les jeunes, enfin qu'on entend de manière plus globale et qu'on a besoin de comprendre. C'est pas un mot familier. Beaucoup de mots familiers ne vont pas durer. Ils sont dans le langage des jeunes et puis ils apparaissent et puis ils disparaissent assez vite. Mais ce mot-là, tout comme go, dure un peu plus et on les entend dans la chanson notamment.
on les entend et puis on peut les lire parce qu'il y a des écrivains qui prennent en charge ce parler familier pour faire de la littérature. Et dans Le Petit Robert, il y a toujours des références littéraires pour démontrer l'usage de ce mot, notamment dans les romans. Alors, il y a le français familier, il y a les mots de la francophonie. Ils sont quand même assez rares cette année, je trouve. Il y a la broche canadienne et le chalet libanais.
Ah. Oui, par exemple.
Alors, le chalet libanais, c'est pas du tout avec des sapins, de la neige sur le toit, etc. Non, on est en bord de mer.
C'est un peu compliqué, oui.
On est en bord de mer, puisque c'est une expression libanaise. Fait son entrée aussi le café blanc, qui est une spécialité libanaise. Et comme le dit ma consoeur et amie Muriel Malouf, le pays s'effondre, mais la culture est vivante. Poursuivons cet inventaire des nouveautés, même si le temps presse. Covid, c'était une évidence après 2 ans de pandémie.
Covid, c'était une évidence. Ce dont on pourrait se réjouir, c'est qu'on a quand même moins de mots du Covid cette année que les 2 précédentes années où on a eu énormément de mots. Là, cette année, ça se calme un peu parce qu'on a déjà... Alors, on n'a pas complètement épuisé le sujet, mais donc, évidemment, c'est des mots plus dans la durée. Le mot « covidé », par exemple, qui fait son entrée cette année, sur le modèle de « grippé » ou « enrhumé », montre que la maladie s'installe et qu'on a besoin d'un adjectif pour qualifier les personnes atteintes du Covid, le Covid long. Voilà, c'est un Covid qui dure, qu'on ne pouvait pas voir au tout début de la pandémie.
Covid qui fait son entrée entre « cover girl » et « covoiturage ». Alors, et c'est un mot, dites-vous, qui peut être masculin ou féminin, et là aussi, oui. Vous n'allez pas beaucoup plaire à l'Académie française, qui considère que le mot doit être féminin, point à la ligne. Pas mal de mots sur les nouvelles technologies, brouteurs, harponnages, NFT. En revanche, la politique n'apporte pas grand-chose. Cette année, j'ai découvert qu'un député macroniste, ça n'existe pas. L'adjectif n'existe pas.
Oui, on fait référence vraiment à une personne. Donc, pour nous, c'est un peu plus anecdotique, on le comprend. C'est presque proche d'un nom propre. Et
oui,
bien
alors...
sûr, Emmanuel Macron... est présent dans le Robert illustré qui comporte des articles de nom propre.
Mais qui va sortir un peu plus tard, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'élection présidentielle, et donc si le Robert illustré sort plus tard cette année, c'était pour nous laisser le temps de mettre à jour l'article Emmanuel Macron, l'article France également, avec le nouveau président français. C'est très long d'imprimer un dictionnaire, et donc on a besoin d'un peu de temps, on ne peut pas l'imprimer le 23 avril et le faire sortir début mai.
Et dans ce petit Robert illustré, il y aura aussi bien évidemment l'entrée de Volodymyr Zelensky. Ça s'impose.
Ça s'imposait. Et ça s'est imposé assez tardivement, puisqu'avant le mois de février, personne ne connaissait. Peu de monde en France connaissait Volodymyr Zelensky. La guerre en Ukraine a éclaté. La rédaction de nos dictionnaires était déjà quasiment achevée. Hein. On était en mise en page à cette époque-là. Et puis, on s'est dit que, voilà, on a vu la guerre se déclarer. Ce président-là, qui était au cœur de l'actualité, qui va rester dans l'histoire par rapport à cette période. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas ajouter Volodymyr Zelensky. Et donc il est rentré, c'est le tout dernier entrant des noms propres.
Et le voilà dans l'édition 2023. Géraldine Moinard, je l'ai dit à Lucie Bouteloup, le mot existe dans Le Petit Robert, mais elle ne l'a toujours pas compris. Mais heureusement, il y a la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Alors ce mot c'est ?
C'est Schmilblick, un mot à l'histoire comme vous allez l'entendre, pleine de rebondissements. Et aujourd'hui dans la puce, avec Bénédicte Gaillard, on va le faire avancer ce Schmilblick. Faire avancer le Schmilblick donc, ou ne pas le faire avancer, c'est selon d'où vient l'expression. Eh bien j'ai posé la question aux enfants, tendez grand vos oreilles.
Faire avancer le Schmilblick, c'est faire avancer la routine, enfin faire avancer le chemin.
Moi, Schmilblick, ça me fait penser à n'importe quoi, truc, enfin un mot pas trop défini. C'est avancer quelque chose, c'est un synonyme de truc.
Pour moi, avancer le Schmilblick, c'est le chevaux qui avance la charrette.
Moi, je pense que c'est juste un truc qu'on a inventé pour dire quelque chose.
Ça pourrait venir soit de l'hollandais ou soit de l'allemand, genre des mots chevaux. D'ailleurs, chevaux, ça fait un peu Schmilblick.
Ça peut peut-être aussi venir du russe.
Ou latin. Et Schmilblick, c'est ça. Elle a pété.
Alors Bénédicte Gaillard, vous avez entendu faire avancer le Schmilblick, une expression qui a beaucoup plu aux enfants, évidemment.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression ?
Alors, faire avancer le schmilblick, c'est faire évoluer une situation de façon favorable, la faire progresser pour la voir aboutir.
Faire progresser un cheminement.
Voilà.
Un mot, Bénédicte Gaillard, le schmilblick, à l'origine tout à fait inattendu.
Le schmilblick des Pfaffoders, il convient de le souligner, rigoureusement intégral, en ce sens qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de schmilblick de campagne, grâce à sa mostoblage et à ses deux glottocifres, qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les ischioplocs, même par les plus basses températures, et quelle que soit la nature du terrain.
Alors, Bénédicte Gaillard, on y comprend que quick à cette explication. Qui est-ce qu'on vient d'entendre ?
Alors, on vient d'entendre Pierre Dac qui présentait l'invention du schmilblick, cet appareil qui sert à tout et ne sert à rien.
Inventé par les frères Fauderch.
Le nom vient sans doute, Pierre Dac était d'origine juive, donc sans doute tiré un peu du yiddish. Et ce mot a eu beaucoup d'importance, il s'est répandu et on a parlé du schmilblick pour dire un truc, un bidule, quelque chose d'un peu compliqué quand même.
Un mot qui a eu donc plusieurs histoires, parce qu'après Pierre Dac, quelqu'un d'autre se l'est réapproprié.
Oui, exactement. Alors Jacques-Antoine le reprend pour donner...
Jacques-Antoine et Guy Lux.
Et Guy Lux, voilà, pour donner le titre du jeu qui sera présenté par Guy Lux tous les jours. Et ce jeu avait pour principe de présenter la photo d'un objet un peu mystérieux en gros plan à tous les téléspectateurs. Et les candidats se présentaient pour essayer de deviner quel était cet objet. Et cet objet était appelé le schmilblick. Et donc, les candidats posaient des questions auxquelles on ne pouvait répondre que par oui ou par non. Si Guy Lux répondait oui, cela faisait avancer le schmilblick.
Donc, du mot schmilblick de Pierre Dac en 1949, on arrive à l'expression faire avancer le schmilblick grâce à Guy Lux. Mais l'histoire n'est pas finie.
Oui, parce qu'en 1975, Coluche fait une parodie de ce jeu télévisé et il y a le pauvre Papy Mougeot qui a beaucoup de mal à prononcer le mot schmilblick, ça fait du schmilmi, schmilbli. Et Guy Lux répond oui, et alors Guy Lux lui demande à quoi vous pensez. Il dit à rien, c'est pour faire avancer le schmilili, schmilmi, schmilmi. Et donc ça a contribué encore ce sketch à davantage instaurer l'expression, à l'implanter dans la langue française.
Donc une expression finalement qui est assez récente, mais qui est encore aujourd'hui très utilisée. Pas facile d'ailleurs de trouver des synonymes à cette expression.
Non, pas facile.
Faire avancer les choses, tout de suite ça fait un peu plat.
Oui, mener à quelque chose.
Ajouter son grain de sel ou sa pierre à l'édifice.
C'est pas...
Et puis ce qui est intéressant dans cette expression, c'est qu'on l'utilise à la négative. Oui, ça ne fait pas avancer le schmilblick. On ne dit pas ça fait avancer le schmilblick.
Si, aussi, les deux. Et peut-être qu'à la forme négative, on aurait peut-être un peu plus de synonymes. Ne pas faire avancer le schmilblick, c'est aussi pédaler dans la semoule.
Pédaler dans la choucroute, mais oui, bien sûr. Voilà.
Mais à la forme positive, c'est plus difficile. Oui.
Alors en Angleterre, on donne une main. On give a hand. En italien, on ajoute une pièce au puzzle, ça fait un peu penser à la pierre à l'édifice. Et en néerlandais, on apporte son petit caillou. Là aussi, c'est encore la pierre à l'édifice. Merci Bénédicte Gaillard d'être venue apporter votre petit caillou à la puce aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de faire paraître Passe-moi l'expression, 300 jeux sur vos expressions favorites et qu'il est édité aux éditions de L'Opportun. À très bientôt autour d'une autre expression.
Merci.
Merci à vous. Le schmilblick et donc les 100 000 mots sont dans ce dictionnaire du Petit Robert dont nous parlons aujourd'hui, Géraldine Moinard. On finit avec Z, il y a les utistes, ça j'aime beaucoup ce mot-là, qui est un mouvement littéraire d'auteurs qui utilisaient le mot zut. Et puis il y a c'est l'onomatopée. Pourquoi finir sur une onomatopée ?
Parce que c'est le dernier mot de la langue, de l'alphabet tout simplement.
Avec combien de Z ?
3 ou 4.
Merci beaucoup Géraldine Moinard. Le Petit Robert en vente donc à partir d'aujourd'hui en version papier et en version numérique, et le Petit Robert illustré le 9 juin prochain. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.